Avec un pincement au cœur, je jette un dernier regard à mon living room. Privée de ses meubles, la pièce semble triste et froide. Pourtant, j'y ai passé de belles années. Les images des moments heureux s'imposent à moi. Elles paraissent datées d'un autre temps, comme un polaroïd aux couleurs délavées. Lola crapahutant à quatre pattes au milieu de paquets cadeaux bariolés pour son premier Noël. Pascal et elle penchés sur la table de la salle à manger pour finaliser un puzzle géant. Mon mari et moi, lovés dans le canapé, visionnant un film en amoureux. Les derniers souvenirs n'impliquent plus que ma fille et moi. Son père n'est plus sur la photo. « Bon, on bouge ?» La voix boudeuse de Lola me tire de mes pensées. Adossée au mur, bras croisés sur sa poitrine menue, mon ado me contemple, les lèvres pincées en une grimace renfrognée dont elle seule a le secret. Depuis le départ de son père, nos rapports se sont beaucoup détériorés. Elle me tient pour responsable du divorce. Il est vrai que j'ai été bien trop accaparée à sauver mon entreprise ces dernières années. Mais je ne pense pas que mon job soit l'unique cause de notre séparation. Mon ex a succombé au charme d'une femme plus jeune. Un scénario tristement banal, en somme. J'aurais pu exposer à ma fille ma propre vision de l'histoire, lui avouer que je soupçonnais mon mari d'avoir rencontré sa nouvelle conquête bien avant notre rupture. Lui expliquer que c'était plutôt la maîtresse de son père qui avait causé notre divorce. Mais j'ai préféré préserver l'image paternelle et la relation de Lola avec Pascal. Brillante idée, Marion. Moralité, ma fille me considère comme un monstre, alors qu'elle idolâtre un crétin même pas fichu de la prendre pour les vacances scolaires. Sans parler de la pension alimentaire qu'il oublie régulièrement de me verser. Le soupir bruyant de ma progéniture me ramène une nouvelle fois à la réalité. Je m'arrache à la contemplation de notre appartement et gagne la porte d'entrée. « Allez, c'est parti !» lançai-je d'une voix trop enthousiaste. Derrière moi, je devine que ma fille lève les yeux au ciel. Les 500 kilomètres qui nous séparent de notre destination s'annoncent des plus pénibles. Le camion de déménagement a déjà quitté les lieux quand nous montons dans ma vieille Opel Corsa. J'ai encore du mal à réaliser que ce soir, je ne serai plus parisienne. J'habite la capitale depuis mes 18 ans, lorsque mon bac en poche, j'ai débarqué sur le parvis de la résidence universitaire où j'avais décroché le Graal, un logement intégralement financé grâce à ma bourse d'études. Après un dernier adieu à cette ville qui a vu défiler toute ma vie d'adulte, je tourne la clé de contact et m'engage dans le trafic. « Si tu veux, on pourra dîner au restaurant ce soir », dis-je à ma fille pour tenter de détendre l'atmosphère. Pour seule réponse, elle hoche vaguement la tête, enfonce ses écouteurs dans ses oreilles et lance sa musique sur son smartphone. Je réprime un grognement. J'ai beau l'aimer plus que tout au monde. Parfois, elle me donne furieusement envie de l'abandonner dans une station-service. Refusant de lui laisser le dernier mot, je tourne le bouton de l'autoradio et la voix rauque de Kurt Cobain emplit l'habitacle. Comme d'habitude, je ne peux m'empêcher de chanter, comprendre, brailler, en même temps que mon groupe favori les paroles de Smells Like Teen Spirit que je connais par cœur. Nirvana a baigné mon adolescence rebelle. Le décès de Kurt Cobain reste d'ailleurs l'un des moments les plus traumatisants de mon année de terminale. À sa mort, j'avais 18 ans, le cheveu gras et le cœur en miettes sous mes t-shirts noirs à l'effigie de mon idole trop tôt disparue. Sans surprise, ma piètre interprétation musicale sort Lola de son mutisme. « T'es obligée de beugler comme ça ?» s'agace-t-elle en ôtant les écouteurs de ses oreilles. « J'entends même plus ma musique, on se croirait dans un abattoir !» Ma gamine semble avoir hérité de mon sens de l'humour. Je m'abstiens néanmoins de sourire à sa vanne. Hors de question que je l'encourage à se moquer de moi ainsi. « Ma chérie, le grunge nécessite de hurler, donc je vais considérer ta remarque comme un compliment. » Maintenant que j'ai récupéré son attention, je baisse à regret le volume de l'autoradio. « Alors, que penses-tu de mon idée de dîner au restaurant ?»« Si tu veux, » lâche-t-elle en haussant les épaules. Je prends ça pour un oui et enchaîne avec l'enthousiasme d'un gagnant à l'euro-million. « Formidable !» On ira chez Grégory, ça fait une éternité que je n'ai pas mangé dans son restaurant. En même temps, c'est pas comme s'il y avait d'autres restos dans ce bled pourri. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Cette fois, la moutarde me monte au nez. Je te rappelle que ce bled pourri, comme tu dis, est le berceau de ta famille. Ouais, Donc parce que t'es née là-bas, on est obligé d'aller s'enterrer dans ce trou perdu? Je pige pas pourquoi je peux pas aller chez papa. À Nice, au moins, j'aurai une vie sociale. Elle me décoche un regard assassin. Je meurs d'envie de lui révéler que son cher papa n'a aucune intention de s'encombrer d'elle. Vivre sans ma fille me crèverait le cœur. Pourtant, quand elle m'a annoncé qu'elle voulait habiter chez son père, j'ai mis mon chagrin de côté et passé un coup de fil à Pascal. Pour une ado, l'existence est plus marrante dans une grande ville comme Nice que dans un village paumé au fin fond de l'Auvergne. Malheureusement pour elle, mais heureusement pour moi. Pascal n'a pas sauté de joie lorsque je lui ai demandé s'il pouvait prendre notre fille avec lui. La voix suintante d'un mélange d'hypocrisie et de culpabilité, il m'a expliqué que cela risquait d'être compliqué et qu'il comptait sur moi pour raisonner Lola. Apparemment, Anna, sa nouvelle épouse, est déjà débordée avec leur bébé. Traduction, elle ne souhaite pas s'encombrer de l'enfant d'une autre. Il n'avait pas le courage de lui annoncer lui-même qu'il ne pouvait pas l'accueillir, m'a-t-il dit. C'est moi qui ai dû m'y coller. Pour protéger Lola, j'ai prétendu que je refusais de la laisser partir. Le juge m'avait attribué la garde au moment du divorce, point final. Résultat, depuis, elle se comporte avec moi comme si j'étais la réincarnation de Jack l'Éventreur ou une sorte de psychopathe qui prend plaisir à la persécuter. « Tu iras pour les vacances ?» concédai-je pour ramener la paix dans le véhicule. « Pff, rien à voir !» marmonne Lola avant d'enfoncer à nouveau ses écouteurs dans ses oreilles, me signifiant ainsi la fin de cette charmante conversation. « Faites des gosses !» qu'il disait. Je ravale la vague d'irritation qui monte en moi et serre les dents si fort que mes plombages semblent crier de douleur. M'engueuler avec ma fille n'arrangera pas la situation. Elle n'y est pour rien si ma vie tourne au fiasco. Si je me retrouve célibataire et sans revenu à 45 ans. Si je dois quitter mon appartement parisien trop onéreux pour emménager dans la maison héritée de mes parents. Je l'arrache à son monde, à ses amis, à son lycée. Je suis sûrement la pire mère qui soit. Pas étonnant qu'elle me déteste. Tout ce que j'espère, c'est qu'une fois installée à Crouzon, mon village natal, elle finira par se calmer et que nous pourrons reprendre une existence normale. Je chercherai un boulot, elle se fera de nouveaux amis, et peut-être arrivera-t-elle alors à me pardonner.